nous appellerons notre nouvelle maison le foyer de l'âme. Ce sera dire à chacun, qui que tu sois, frère et passant, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. C'est avec ces mots, il y a un peu plus d'un siècle, que le pasteur Wagner préparait l'inauguration de cette maison. Et il me semble que c'est une belle manière d'accueillir la CIMAD et son président, Christophe Deltombe. La CIMAD, aux côtés de la grande famille militante et blessée. Et puis c'est aussi une belle manière de vous accueillir toutes et tous, qui que vous soyez. Alors dans ce cycle un peu particulier de culte-conférence, où il y a un culte et une conférence, on voit souvent des visages nouveaux, et c'est une grande joie pour nous. Et donc qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance, quelles que soient vos convictions, vous savez que le thème du cycle de cette année, c'est « Je ne sais pas ». Et donc, quel que soit ce que vous savez, et surtout ce que vous ne savez pas, ce que vous cherchez, vous êtes ici, chez vous. Alors, pour suivre la partie liturgie de ce culte, vous avez besoin cette petite feuille blanche, enfin vous avez besoin, vous pouvez vous inspirer de cette petite feuille blanche pour bien comprendre le sens des éléments de la liturgie en question. Et puis vous avez besoin du livre marron dans lequel vous trouverez les cantiques que nous chanterons et que j'annoncerai. Et donc je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Et on s'inspirera du psaume 98 pour ce faire. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car il fait des merveilles. L'Éternel révèle sa justice aux nations. Il sait rappeler sa fidélité, son amour en faveur de ses enfants. Acclamez l'Éternel, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face de l'Éternel. Et je vous propose de chanter notre joie en prenant le psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, mais pas la première strophe, les strophes 2, 3 et 4, le psaume 25.
Thank you.
Alors nous avions les enfants avec nous, mais les enfants nous quittent pour l'école du dimanche avec leur moniteur. Donc on va les laisser partir tranquillement. Et alors nous écoutons la volonté de Dieu dans un texte qui vient du Deutéronome, qui a été écrit un tout petit peu avant la création de la Cimade, mais qui aurait pu être écrit, je pense, pour la Cimade. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et puis, voici comment Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et nous prions pour nous tourner vers Dieu, lui demander son aide. Et c'est ce que je vous propose de faire avec cette belle prière du IVe siècle. Viens, Seigneur, cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée. Laisse les autres et cherche la seule qui est perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, accueille celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Ce fardeau n'est pas pour toi une charge. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis. Viens toi-même, porte-moi sur la croix qui est salutaire à ceux qui sont perdus, qui est reposante aux fatigués, qui est vivifiante aux mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Viens, bon berger. Amen. Et puis, après la prière, vient l'annonce du pardon. C'est dans le psaume 116 que je vous propose d'écouter cette annonce du pardon. J'aime l'Éternel. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion, notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Et nous pouvons nous lever pour prendre le cantique numéro 300, Mon Dieu, mon Père. Et nous prendrons les quatre strophes. Thank you. restons debout pour écouter la confession de foi. Alors, vous pouvez la suivre dans les petits livrets. C'est une confession de foi un tout petit peu spéciale, un tout petit peu particulière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. Elle vient d'une église anglicane, mais je trouve qu'elle illustre à la fois bien l'esprit du foyer de l'âme et puis le thème de notre cycle de culte-conférence. Je ne sais pas. Je crois à la force créatrice, agissant en toutes choses et en l'interdépendance de tous les peuples et de la création. Et je crois que c'est l'esprit qui donne son énergie vitale à tout ce qui existe. J'aime la vie qui anime toutes choses et je crois en elle. Je crois en la puissance infinie de l'amour, du pardon, de la compassion et de l'espérance. Je crois qu'il faut lutter contre toutes les forces négatives de la méfiance, de la jalousie, de l'intolérance et de l'impatience, afin de promouvoir la justice et le fair-play. Je crois au bonheur de chaque être humain à être accepté tel qu'il est et à sa liberté de pouvoir être lui-même. Je crois au pouvoir de la musique, de l'art, de la littérature, de la création et du dialogue entre les humains pour éveiller le sens du divin. Je crois que, dans la tradition chrétienne, Jésus a trouvé la perle de grand prix et a su montrer par son enseignement et sa crucifixion la voie de l'amour désintéressé. Je crois qu'il y a d'autres voies dans le monde que celles de la tradition biblique qui conduisent à la vérité. Je crois que le royaume de Dieu peut être atteint ici et maintenant, que les vérités du credo que voici sont éternelles, alpha et oméga, enracinées dans le passé, le présent et l'avenir. Je crois que ce qui survit de nous est l'amour que nous avons donné aux autres et à la création. Je crois que l'enfer n'existe pas, sauf lorsqu'on attend l'autobus sous la pluie un soir de novembre, lorsqu'on est perdu, tout seul, abandonné, affamé, dans le froid et la pauvreté, ou lorsqu'on est traité injustement. Je ne crois pas que je suis sauvé par du sang, de la souffrance et un sacrifice. Je ne crois pas que Dieu soit au sommet d'une hiérarchie qui descend jusqu'à l'homme, puis aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés. Je ne sais pas si je crois en la vie après la mort. D'ailleurs, qu'elle existe ou non ne changerait rien à mon comportement. Je ne sais pas comment le monde a été créé, j'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort, je crois en l'esprit, je crois que Jésus était sensationnel. Je crois que la Bible dit quantité de choses merveilleuses, mais aussi des choses discutables qu'il faut trier. Je crois en l'amour, en la lumière et au partage. Amen. Et nous chantons le 298, « Prends ma main dans la tienne », les trois strophes.
Thank you.
Alors je me rends compte que dans mon enthousiasme à partager avec vous la confession de foi, je l'ai fait un peu tôt. Mais enfin, ça n'a aucune importance. C'est maintenant le moment de vous écouter, Christophe. Donc merci beaucoup d'être avec nous pour partager et nous éclairer sur le sujet jusqu'à preuve du contraire.
J'aime ça, ça ne posera pas trop de problèmes avec votre micro, non, ça va aller.
Ah, comme vous voulez.
Je sais pas. J'ai ça dans la... J'ai ça dans la poche. Voilà, d'accord. Je ne sais pas. C'est le thème sur lequel je suis invité à émettre quelques idées ce matin devant nous. C'est inconfortable pour le président d'une association qui, aux yeux de ses militants, ne doit pas être habité par le doute. La pirouette que j'ai trouvée pour échapper à l'accusation de forfanterie est de dire que tout ce que nous affirmons est vrai jusqu'à preuve du contraire. Plus sérieusement, c'est évidemment m'inviter à questionner les engagements de la CIMAD, mouvement que j'ai l'honneur de présider depuis juin 2018, engagements qui ont marqué son histoire comme engagement aujourd'hui. Ce mouvement qui a 80 ans aujourd'hui a des racines protestantes. Son objet social est celui de l'accompagnement des personnes étrangères dans la défense de leurs droits, de leur dignité, la résistance aux lois et aux pratiques qui stigmatisent, qui excluent, qui humilient, et le témoignage au soutien de l'interpellation des pouvoirs publics et de l'opinion. Avant d'évoquer la question du doute, de l'erreur, de l'aveuglement idéologique, du fourvoiement politique ou du non-engagement que suggère la question posée, je vais parcourir rapidement quelques pages de l'histoire de ce mouvement pour vérifier si le doute a pu habiter les militants d'alors et de quelle manière ils l'ont dépassé ou intégré dans leurs actions. L'histoire commence en 1939, dans les camps de Gurs, Rivesaltes, Riocro, Ressemédou, Prince, Nexon. Les premières actrices de la CIMAD, car ce sont des femmes qui ont créé la CIMAD, réussissent à imposer leur présence dans ces camps pour être auprès des détenus et leur apporter un peu de secours spirituel, intellectuel et matériel. Une petite anecdote, pour rentrer dans ces camps, ça n'était pas très simple, et Madeleine Barrault, qui est la première animatrice de la CIMAD, est arrivée un jour avec des sacs de layettes, parce qu'il y avait des naissances dans le camp, et là, évidemment, les gardiens ne pouvaient pas l'empêcher d'entrer, et c'est ainsi qu'elle s'est imposée, et qu'elle a imposé la CIMAD dans les camps. Déjà, une interrogation naît de cette démarche. En entrant dans les camps, ne cautionnait-on pas leur existence? À cette question, j'en ai ajouté une autre, très angoissante, à partir de 1942, lorsque les équipes, confrontées aux déportations massives de Juifs, dans ces camps, tentent d'arracher ces malheureux à leur sort funeste. En plaidant pour les uns, sans pouvoir plaider pour tous, on opérait de ce fait un choix terrible qui se prolongera ensuite dans l'organisation des filières vers la Suisse avec des faux papiers. L'engagement de la CIMAD dans la guerre d'Algérie et les différentes actions entreprises amèneront d'autres questions. Jacques Beaumont, secrétaire général de l'époque, montre toute l'ambiguïté apparente des choix qui furent faits alors. Je cite « Les accusations de compromission viennent de toutes parts. Compromission à droite, car nous avons des amis parmi les colons. Compromission avec l'armée, car nous travaillons dans des régions entièrement quadrillées par l'armée et sur les territoires des SAS. Compromission à gauche, du côté des rebelles, car nous vivons en amis au milieu des familles dont les fils sont au Djebel. Cette compromission dont nous souffrons doit être acceptée comme l'une des conditions de notre présence et de notre travail en Algérie. Nous souhaiterions que cette difficulté soit comprise et partagée, car nous avons grand besoin d'être soutenus et éclairés à chaque instant pour rester lucides et discerner, si cela est possible, les limites à ne pas franchir. La suite montre que la CIMAD, loin de s'inscrire dans une logique partisane, reste fidèle à ses origines, alors qu'elle manifesta sans ambiguïté son choix d'être auprès des partisans de l'indépendance de l'Algérie, elle apporta, après 1962 et les accords d'Évian, son aide aux Harkis, ces exilés victimes à plus d'un titre de cette guerre de décolonisation. Elle sera également présente dans les camps des personnes dites rapatriées d'Indochine après les accords de Genève de 1954. Et elle dénoncera sans relâche les conditions déplorables réservées à ces populations victimes de l'histoire, du racisme, de la méfiance et de l'oubli. Si l'accueil des réfugiés latino-américains dans les années 70, au temps des dictatures, ne posait pas de problème de conscience ni de déchirement politique, parce qu'il y avait à l'époque un consensus pour les accueillir, il n'en fut plus de même en France à partir de 1974, période de fermeture des frontières et d'abandon de la politique d'accueil des travailleurs migrants. La gauche arrivée au pouvoir en 81 demande à la CIMAD d'assurer une présence et un accompagnement juridique des personnes retenues dans tous les centres de rétention administrative que le gouvernement vient de créer. Or, la CIMAD était opposée à la création de ces centres. Fallait-il accepter la mission au risque d'être considéré comme complice de cette politique d'enfermement? La CIMAD fit le choix d'y aller, non seulement parce que c'était conforme à son engagement historique, mais aussi pour pouvoir témoigner et interpeller. En 2009, le monopole de la CIMAD est remis en cause par le gouvernement et la présence dans les centres de rétention administrative est ouverte à la concurrence. Depuis, la question de la poursuite de notre présence dans les CRA, centres de rétention administrative, fait débat à chaque renouvellement du marché. Devons-nous y rester? Pas de doute, s'agissant de la présence auprès des personnes retenues, leurs demandes d'aide juridique sont fortes et les services que nous leur apportons sont réels. Mais la situation dans les centres de rétention se dégrade. La désespérance est extrême. Les projets gouvernementaux visent à augmenter les capacités d'enfermement, à allonger la durée d'enfermement, à créer de nouveaux CRA, à enfermer plus systématiquement les personnes destinées à être expulsées, à y enfermer des enfants contre l'avis des professionnels, médecins et psychologues, de sorte que parfois le doute s'installe et nos salariés eux-mêmes finissent par considérer la mission comme difficile, très difficile. C'est peut-être le moment de se poser la question « Pourquoi s'engager ?» Sartre écrivait dans le numéro 1 des temps modernes « L'écrivain est en situation dans son époque. Chaque parole a des retentissements, chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Cela n'était pas leur affaire, dit-on. La condamnation de Dreyfus était cette affaire de Zola. Pour Sartre, nous sommes condamnés à l'engagement. Selon lui, personne ne peut prétendre à la neutralité. Refuser de choisir, c'est choisir. La passivité, la résignation, l'indifférence sont des choix. Pour Albert Camus, patron du journal Combat, le témoignage est un véritable engagement parce qu'il est fondé sur la vérité observée. Emmanuel Mounier écrivait dans son livre « Le personnalisme » « L'absolu n'est pas de ce monde et n'est pas commensurable à ce monde. Nous ne nous engagerons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l'engagement, c'est refuser la condition humaine. » À la CIMAD, l'engagement a ses racines dans la tradition de l'Église confessante créée en 1934 pour s'opposer au régime nazi et à une église collaborationniste. Les thèses de Pomerol, adoptées en 1941, où sont repensés les rapports de l'église avec l'État, posent les limites de l'obéissance à ce dernier et exigent le respect des libertés individuelles, la dénonciation de l'antisémitisme et la condamnation de la collaboration. Aujourd'hui, l'actualisation de ces thèses passe par le choix d'une société respectueuse de l'autre, de tous les autres. Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. L'humanité passe par l'autre. Eux, c'est nous. Ce sont des slogans qui ont été créés par la CIMAD pour dire dans quelle société nous voulons vivre. Respect des droits fondamentaux, respect des droits des personnes, respect de la dignité humaine, condamnation des politiques de maltraitance des étrangers que les gouvernements tentent de justifier par la lutte contre l'appel d'air, présenté comme un risque majeur et dont la pertinence est contestée par nombre de chercheurs. S'engager, c'est exister. S'impliquer dans la vie de la cité, c'est donner un sens à la vie. Tant que nous ne nous engageons pas, le doute demeure, l'inefficacité prévaut et la loi du plus fort s'impose. Réapparaît la question du départ, celle du doute, je ne sais pas. Car l'engagement n'exclut pas l'incertitude. S'engager suppose d'être convaincu que la cause que l'on défend a une valeur sociétale, incontestable, d'une part, et que nos choix stratégiques vont bien nous conduire dans la direction que l'on a préalablement définie. Deux sortes d'erreurs sont possibles. Faire reposer nos analyses sur des études sérieuses ne nous met pas à l'abri d'erreurs factuelles. Je crois, sans forfanterie, que nous sommes bien équipés à la CIMAD, nous avons le souci du sérieux nécessaire à nos études. Les témoignages que nous recevons des universitaires et de nos partenaires le montrent suffisamment. Néanmoins, l'erreur est toujours possible. Les erreurs de jugement, de stratégie, d'orientation politique sont d'une autre nature. Les choix effectués reposent sur des analyses intégrant de nombreux paramètres. Un choix stratégique est une prise de risque et on peut commettre des erreurs d'analyse. L'une des plus fréquentes procède de la crainte de ne pas aller dans le sens de l'histoire, de trop se distinguer des courants de pensée dominants, de s'isoler intellectuellement, professionnellement, socialement, amicalement. Le conformisme intellectuel est un écueil que connaissent toutes les organisations par le seul fait que la survie institutionnelle passe par la permanence de certaines postures. Elles fondent un lien de confiance avec les adhérents, les partenaires et même les interlocuteurs et met à l'abri de l'aventure et de la déstabilisation. Personne n'est à l'abri de ces dangers, pas plus les intellectuels compagnons de route du Parti communiste qui ne condamnèrent pas les procès staliniens, ni les militants de l'anti-impérialisme américain qui considéraient que les boat people étaient des victimes nécessaires d'un socialisme en construction, ou encore que le régime castriste serait un modèle pour les démocraties sud-américaines. De telles erreurs d'appréciation sont de nature à freiner l'engagement, en particulier chez les jeunes. Ils n'ont pas le secours de la loupe déformante des idéologies, aujourd'hui obsolètes, pour s'engager sur le temps long. Ils sont en général assez critiques à l'égard de la classe politique, dont ils dénoncent les erreurs et les impuissances et ne conçoivent l'engagement que pour des causes consensuelles, humanitaires, sociétales. Ils attendent des actions concrètes à effet immédiat, refusent l'embrigadement partisan. Ils sont allergiques au compromis. Pourtant, la politique est l'art du compromis, qui suppose l'arbitrage entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Définir des objectifs n'est pas nécessairement incompatible avec une approche équilibrée des fins et des moyens. Il est vrai cependant que certains choix peuvent être périlleux. Décider de mener un combat contre un gouvernement, une municipalité, un organisme public, sur des causes qui nous semblent justes, peut entraîner la perte de subventions et mettre en péril l'association, c'est-à-dire le projet. Militer pour la dignité des migrants peut n'être pas compris au point de se retrouver en position d'accusé par une opinion publique hostile, comme c'est le cas pour la CIMAD à Mayotte, où près de 50% des habitants sont des émigrés comoriens rejetés par les Mahorais. Aller au secours des naufragés en Méditerranée, c'est être accusé de faire le jeu des passeurs. Porter secours en montagne aux personnes migrantes qui passent la frontière au péril de leur vie est un délit. Et là se retrouve le vieux débat entre légitimité et légalité, ou celui de la désobéissance civile. C'est le débat des origines de la CIMAD et celui des thèses de Pomerol. C'est un débat éternel et c'est celui que liberté et vérité font surgir. À la CIMAD, nos interrogations sont nombreuses et constantes, pas tant sur les fins qui globalement rejoignent celles des origines du mouvement que sur les moyens ou efficacité, éthique, vérité, capacité à faire sont au nombre des paramètres à évaluer. être aux côtés des indésirables que sont aujourd'hui les exilés, défendre leur dignité, leurs droits, dénoncer les lois et les pratiques qui conduisent à l'exclusion et à l'humiliation, témoigner, proposer, interpeller pour faire changer le regard, sont nos objectifs et nos moyens d'action. Aujourd'hui, qui vise à faire advenir notre slogan « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre ». Il s'agit d'une conviction qui, de ce fait, ne peut admettre ni le doute, ni la preuve contraire.
Merci infiniment de cet enthousiasme, de cette conviction, de cette force que nous avons reçue avec non seulement bonheur, mais avec ce sentiment d'urgence qui porte aussi les actions de la CIMAD aujourd'hui. Et merci surtout, enfin, pour ma part, de ne pas avoir lissé les aspérités des idées, des engagements dans celle de la réalité du quotidien, et d'avoir bien mis en évidence ce doute, ces incertitudes et ce « je ne sais pas » qui ne nous lâche pas. La CIMAD, vous l'avez dit, a fêté ses 80 ans. Il y avait un colloque hier à vers Lyon. Et puis je voudrais aussi dire qu'il y a une campagne qui a été récemment lancée qui s'appelle « Quand tout bascule », une campagne d'affichage, une campagne avec des petits films que vous, dont vous pouvez prendre connaissance sur le site de la CIMADE, les diffuser autour de vous, les faire regarder, et puis aussi le petit guide de lutte contre les préjugés sur les migrants, qui a été récemment aussi réédité pour la troisième fois, remanié. C'est un petit livret extrêmement accessible qu'on peut se procurer facilement et qui permet aussi de se mettre les idées au clair et surtout d'éclaircir celles des personnes autour de nous sur ce que c'est que la migration, les droits, le travail, la réalité de la situation des personnes migrantes de manière très, très simple, vrai ou faux, enfin voilà, des choses très, très accessibles et qui sont vraiment à diffuser largement. À la fin de ce temps de culte, vous pourrez également, si ce n'est pas déjà fait, je crois que déjà beaucoup l'ont fait, consulter le stand de la librairie qui est généreusement fourni par nos amis de la librairie Jean Calvin. Merci à vous, Nathanaël, et puis j'ai oublié le nom de votre ami, collègue, Benjamin, voilà. Benjamin, qui sont venus pour tous ces dimanches fournir et nous donner encore de quoi réfléchir, de quoi nous informer, de quoi être un peu plus présent, bien présent dans la réalité. Donc voilà, le stand est encore ici aujourd'hui. Et puis, ils reviendront, les amis de Jean Calvin, ils reviendront parce que le professeur Olivier Abel, qui n'a pas pu intervenir dimanche dernier, a annoncé qu'il viendra le dimanche 1er mars. Voilà, dans un mois. Donc, vous pouvez noter cette date. Il y aura d'autres informations pour que le plus grand nombre soit prévenu. Mais notez déjà, c'est le 1er mars qu'Olivier Abel viendra parler sur ce thème, je ne sais pas, avec une conférence intitulée « La prédestination de points, qui sait ?» Voilà. Après le culte, il y aura un repas qui normalement clôt le cycle de conférences. Alors là, ce ne sera pas tout à fait le cas, mais il était quand même prévu ce dimanche, donc il aura lieu dans la salle du second étage. C'est un repas très simple, avec un buffet alimenté par ce que les uns ou les autres apportent, ce qui permet d'accueillir absolument toute personne qui n'aurait rien apporté, mais qui souhaite quand même rester pour le partager. Donc n'hésitez pas. Dans les activités de la semaine, alors plusieurs rendez-vous en fait. Mercredi 29, c'est le Ciné-Club qui nous permettra de regarder un film, pas tout jeune, mais un film merveilleux, L'Impératrice Rouge avec Marlène Dietrich. Donc soyez nombreux à... C'est à quelle heure ? 19h pour un encas. On fournit aussi ce qu'il y a à manger, 19h45 pour la projection. Jeudi 30, il y aura à 19h également la réunion du groupe œcuménique qui prépare une célébration sur le thème de la création de l'écologie, célébration qui aura lieu le 13 mai prochain à l'église Notre-Dame d'Espérance. C'est un groupe au sujet duquel je voudrais rappeler une fois de plus que je suis la seule représentante de la paroisse. Donc un peu de renfort serait le bienvenu. Voilà, donc nous préparons une célébration. Et puis samedi 1er février, c'est le groupe Ciel et Terre qui se réunit sur le thème de l'amour, l'amour du prochain. Si vous n'avez pas déjà reçu toutes les idées de textes proposées à la lecture, vous pouvez me donner vos coordonnées et on vous les enverra. Et puis le dimanche 2 février, le culte sera présidé par Christophe Lemont, un ami bien connu qui est souvent venu prêcher ici, puisque je serai pour ma part à ma session de commission des ministères. Deux autres annonces. Alors, une qui concerne les éclaireurs du FSA, du Faubourg Saint-Antoine, que j'invite à venir pour nous parler de leur présence et de leur manière de prendre part à la vie aussi de notre Assemblée.
Je vais juste les présenter, Raphaël et Mathilde. Elles sont ici pour nous aider au repas, au deuxième, aujourd'hui, mais elles vont vous dire ce qu'elles font, quel est leur projet et comment est-ce que éventuellement on peut les aider.
Donc, aujourd'hui, on est en première étape de notre route aînée, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à un projet qu'on mettra en œuvre l'année prochaine. Mais pour pouvoir réaliser ce projet, on va avoir besoin de fonds. Donc on fait plusieurs actions. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est venu aider, mais aussi on peut faire des déménagements, des petits travaux, de l'aide aux devoirs ou de la garde d'enfants. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On l'a pas encore fini.
Alors en fait, il faut bien comprendre qu'ils ont, les aînés, des bras, des jambes et des cerveaux à disposition de tout le monde et que vraiment, c'est super d'être avec eux. Eh bien, comme pour les contacter, elles m'ont donné des coordonnées que nous allons mettre sur le site mais aussi diffuser dans l'amitié. Voilà, il y a un petit entrefilet qui reprend ce qu'elles ont dit et donc qu'on pourra aussi mettre sur le site. Ça vous va ?
Merci.
Ah, c'est super, hein ?
Merci. Et notre annonce qui concerne aussi un repas, pas celui d'aujourd'hui, mais le repas du CASP qui aura lieu dimanche 23 février. Donc le repas du CASP, c'est un repas au cours duquel notre paroisse invite une cinquantaine de personnes démunies, soutenues par le Centre d'Action Sociale Protestant, pour un repas, un bon repas le dimanche midi et un moment de sérénité, de calme, de détente, de beauté, de bonté, de convivialité. Pour ce repas, eh bien, nous avons déjà un certain nombre de bénévoles, mais il nous en faudrait une demi-douzaine de plus. Donc pour ce faire, il y a sur l'étagère au fond, derrière le stand de librairie, un grand panneau avec des cases sur lesquelles vous pouvez inscrire votre nom et inscrire à quel moment vous serez disponible, soit le dimanche toute la journée, hein, de quelque chose comme 10h-15h, 9h-15h, ou alors 3h le matin, ou alors juste pendant le repas, ou alors pour le rangement et la vaisselle, ce qui n'est pas non plus une mince à faire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à dire à quel moment vous êtes disponible. En fait, c'est pas compliqué. Il faudrait être une vingtaine de bénévoles pour que tout soit paisible pour les bénévoles. Parce que pour les invités, ça l'est toujours. Mais pour que ça se passe bien pour les bénévoles, il faudrait être dans l'idéal une vingtaine. On peut faire à 15, 16. Mais pour le moment, on n'est pas encore 15, 16. Donc si vous avez un peu de temps, si vous connaissez des personnes qui sont aussi intéressées, on peut y amener des amis pour ne pas venir tout seul, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire ou à prendre contact avec moi par mail avant le 23, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Ah oui, merci Brigitte. Puisque donc habituellement les textes des conférences sont réunis, rassemblés, édités, reliés par Brigitte et disponibles normalement le jour de la dernière conférence, là il se trouve que, bon, pour des raisons que vous connaissez, tout est un peu décalé, donc Olivier Abel, qui vient le 1er mars, n'a pas de texte. Olivier parle avec quelques notes et puis beaucoup dans son élan et à partir de ses connaissances. Donc il faudra un peu le temps pour retranscrire sa conférence, ce qui fait que les petits livrets seront édités et bien dans les jours suivants. Vous serez aussi tenu au courant afin d'en commander, enfin d'en acheter lorsqu'ils seront mis à disposition. Nous vous préviendrons. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aujourd'hui, ce ne sera pas non plus le 1er mars, mais dans les jours suivants. D'autres choses ?
Merci beaucoup, Christophe, et pour cette belle conférence qui illustre peut-être aussi un petit peu le moment qui arrive. Parce qu'on a bien vu que dans un monde incertain, l'incertitude ne doit pas conduire à l'inaction. Et que j'ai bien entendu que nous étions condamnés à l'engagement. Et jusqu'à preuve du contraire, une église comme la nôtre ne peut vivre que par l'engagement de chacun. Et c'est pour ça que c'est tout joyeux que nous allons participer au temps de l'offrande. Joie d'ailleurs qui sera multipliée par le charme de l'orgue. Peut-être qu'aujourd'hui, notre prière d'intercession résonnera de manière un tout petit peu singulière. Elle est inspirée du psaume 72. « Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair. » Oui, Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice, qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagnes, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des siècles. Dieu, délivre le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours. Délivre-les de l'oppression, de la violence, leur sang est d'un grand prix à tes yeux. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé et que ses épis ondulent comme la forêt du Liban. Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre. Quand ton nom soit béni toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de l'Évangile. Et nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et voici venu le moment de clôturer notre culte. Nous nous retrouverons donc pour le repas ensuite, non sans avoir chanté un dernier cantique, le 279, vous pouvez le préparer, et profiter jusqu'au bout du talent d'Elisabeth, notre organiste, parce que dans ce monde d'incertitude, il y a tout de même une chose que nous savons, c'est la chance que nous avons d'avoir des organistes au foyer de l'âme d'un talent si merveilleux. Merci beaucoup, Elisabeth. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Et donc le 279, les strophes 1 et 4.